Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika.
Galère, galère, galère. Bonjour auditrices et auditeurs pour cette émission malaika. Du 6 juillet 2022 de Livres et Amis. Nous avons beaucoup parlé de Marseille ou d'auteurs marseillais ces derniers temps et aujourd'hui nous lirons un ouvrage qui part de Marseille pour s'ouvrir sur la Méditerranée ou plutôt les Méditerranées. Méditerranée au pluriel, c'est le titre de ce recueil littéraire constitué d'essais et de nouvelles d'auteurs méditerranéens de différentes origines. L'anthologie a été rassemblée par Michel Lebris et Jean-Claude Izzo en 1998. Nous commencerons avec leur texte, puis donnerons la parole à d'autres contributeurs de toutes les Méditerranées. Écoutons d'abord la présentation de leur projet. Méditerranée, zone de tous les brassages et de toutes les fractures, sans cesse meurtrie et toujours renaissante, hantée par la tentation du tragique. Méditerranée, mère des cultures, dans un flamboiement créateur sans équivalent, quand s'opposent ou s'illuminent l'Orient et l'Occident. Aujourd'hui menacée par de puissantes forces de destruction, la Méditerranée ne peut-elle opposer à cette violence l'évidence d'une identité partagée par ceux qui peuplent ses rives ? Plusieurs écrivains nous apportent ici leurs réponses à cette question sous forme de récits, de nouvelles, d'essais, de réflexions. Reprenons donc de façon plus détaillée le propos de Michel Lebris. J'ai oublié de vous dire que c'est comme d'habitude Françoise donc, qui est avec moi, Dominique, pour Méditerranée.
La Méditerranée, matrice de notre monde, zone de tous les brassages et de toutes les fractures, sans cesse déchirée, meurtrie et toujours renaissante, hantée par la tentation du tragique.
Et
l'on se dit, parfois, condamné au malheur, qui les nomme intégrisme, fascisme, nationalisme. Méditerranée, où depuis des millénaires, écrit Jean Giono, s'échangent les meurtres et l'amour. Mais Méditerranée aussi, mère des cultures, dans un flamboiement créateur sans équivalent peut-être dans l'histoire, quand s'opposent et s'illuminent l'Orient et l'Occident. Méditerranée millénaire, où le passé jamais ne se laisse oublier, mais où nous pressentons pourtant que se joue, pour le meilleur ou pour le pire, une des figures possibles de notre avenir. Et cette évidence troublante dans les déchirements, les heures jusqu'au bord du gouffre, en a-t-on jamais pu faire le tour sans être arrêté par une guerre? D'une identité méditerranéenne plus forte que les forces qui tendent à la détruire. Savants, idéologues, politiques ont là-dessus bien des discours. Mais ne sont-ce pas les artistes, les écrivains, les peintres, les musiciens, par-delà les cris de guerre, les anathèmes et les slogans, qui disent le plus fortement cet avenir possible? En ceci, au moins par l'évidence de leurs œuvres, qu'ensemble, ils tissent, sauvent, recréent cet imaginaire méditerranéen qui est comme leur demeure.
L'imaginaire méditerranéen comme une demeure, c'est une belle formule. Nous allons en rencontrer d'autres de ces formules. Et d'abord, avec une sorte de deuxième introduction due à Thierry Fabre. À Marseille, Thierry Fabre, on le connaît bien. Il est écrivain, il est chercheur, il est essayiste, il a été journaliste, ancien rédacteur en chef de la revue Kantara, éditée par l'Institut du Monde Arabe. Il a été également membre du comité de rédaction de la revue Esprit. Il a dirigé La Méditerranée créatrice, qui est un ouvrage paru aux éditions de l'Aube en 1992, ainsi que L'héritage andalou, chez le même éditeur, en 1994. Et puis, il est devenu, et il est toujours, le créateur et le coordinateur des rencontres d'Averroès, ces rencontres méditerranéennes, justement, qui, après année après année, rassemblent à Marseille précisément des chercheurs, des écrivains, des intellectuels, etc. etc. Donc, Thierry Fabre, eh bien, écoutons-le.
Le noir et le bleu. Il y a en Méditerranée une imminence du tragique, une proximité du malheur. Il est là, tout près. Et on ne cherche pas à le cacher, même pas à le tenir à distance. Il fait partie de la vie, tout simplement. La mort a sa demeure, l'ombre sa surface, noire. Ce carré de nuit habille encore les vieilles femmes et laisse toujours une vive empreinte dans nos mémoires. Le noir devient parfois une couleur, comme l'a tenté Matisse à Tanger. Mais le noir lumière reste inconnu, en dépit des tentatives de soulage. Le cœur antique maintient le noir parmi les forces de la nuit et l'actualité ne dépend pas cette attraction pour la violence et la guerre. Noir mafia, dont le berceau est la Sicile, mais qu'il serait bien trop facile de cantonner à cette seule île. Noir sur noir, disait Sciascia dans ses chroniques et ses mémoires. L'emprise de la pieuvre a gagné bien des îles et des ports. Elle maintient un profond obscurantisme au nom de sa seule et sale valeur, l'argent combiné à la violence. Noir fascisme, qui lui aussi nous est venu d'Italie, avec ses chemises noires qui ont terminé leur pouvoir dans une république au nom prédestiné de salaud. Ce noir politique, là, n'a pas vu sa couleur s'effacer plus d'un demi-siècle après la fin de la guerre. Bien au contraire, il redresse la tête et retrouve un certain élan. L'imaginaire de la peur gagne en contagion. Le rejet et le repli face à l'autre rive deviennent des figures dominantes, presque acceptées par la majorité de la population, comme si cela allait de soi. Peut-on imaginer pourtant une Méditerranée sans ses deux rives, une Méditerranée des fractures protégée derrière un nouveau mur ? Cette illusion néfaste est en train de s'installer comme nouvelle figure d'avenir au nom d'un discours de la menace. Noir intégrisme. Il est vrai que cette force ne cesse pas, elle aussi, de s'étendre. Produit par la modernité et notamment par une urbanisation sauvage, ils ne sont pas porteurs de modernité. Ils jettent le voile noir de l'idéologie religieuse sur la culture et la création, considérée comme illicite. La Méditerranée, zone privilégiée de contact avec l'Occident, n'est dans leur vision qu'un territoire impie qui n'a aucune raison d'être. Noir dessein que partagent les autres intégrismes, juifs, orthodoxes et catholiques, qui sont à demeure dans cette région du monde. Seul l'un prévaut dans sa pureté dangereuse. Le multiple n'a pas droit de cité. Monologue souverain de tous ces intégrismes, qui se retrouve en un mouvement concertant pour récuser avec véhémence la polyphénie méditerranéenne. L'intégrisme a en effet une vision de l'identité qui procède d'une essence et qui participe d'une transcendance exclusive de toute autre dimension. Noir. Il ne s'agit pas d'extirper le sens du tragique de la Méditerranée. C'est une dimension qui lui est consubstantielle. Mais le temps est venu de bien regarder la haine en face. Son immense pouvoir de destruction n'est plus aussi bien contenu que par le passé. Plus d'un demi-siècle après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la clairvoyance s'est assombrie, l'esprit de résistance s'est émoussé, alors que le noir redevient une couleur attrayante. Les astronomes ne donnent-ils pas à un horizon vide le nom de trou noir ? Et l'on sait bien, en ces temps de montée de l'insignifiance, que la nature politique a horreur du vide. Il y a là une force, un élan qui rappelle la proximité du gouffre et la nécessité d'y faire face, de l'enjamber en construisant des ponts plutôt que de s'aveugler en désirant des murs. La Méditerranée, lien charnière entre culture et civilisation, est à un moment charnière de son histoire. Une part décisive de notre avenir va se jouer là, et nous ne voulons pas le voir. Nous ne savons pas le voir. La présence de l'irrémédiable ne tue cependant pas l'exaltation de la vie. C'est un couple indissociable. Le noir appelle le bleu. Bleu, ceci est la couleur de mes rêves. John Miro nous ouvre un coin de ciel, nous offre un passage par l'imaginaire pour renouer avec notre puissance d'affirmation. Ce rêve-là n'est pas une illusion ou une échappée hors du monde. C'est un rêve les yeux ouverts, un appel souverain à une forme de connaissance restée bien trop longtemps enfouie, l'imagination créatrice. Elle relie les deux rives de l'homme, le sensible et l'intelligible, le terrestre et le céleste, le physique et le spirituel, et peut-être appréhendée comme une immense métaphore de la Méditerranée. Là où naît la jonction entre l'un et le multiple, là où s'opère le passage décisif entre le désir et la forme, là où s'accomplit la métamorphose entre le créé et l'incréé, bleu et ce point de ralliement. C'est la couleur d'une identité ouverte qui épouse les variations et les plissements du temps. L'identité méditerranéenne ne s'hérite pas, elle s'acquiert, observe Matvejevitch en son bréviaire. C'est une appartenance volontaire et non une descendance obligée. Identité-relation, elle se construit par les multiples interactions qui ont fait l'histoire de la Méditerranée, par les emprunts et les échanges qui n'ont eu de cesse de s'accomplir dans cette mer intérieure ouverte sur le monde. Ce n'est pas par-dessus cette mer que les échanges se sont faits, c'est à l'aide de cette mer. Mettez à la place un continent et rien de la Grèce n'aurait passé en Arabie, rien de l'Arabie n'aurait passé en Espagne, rien de l'Orient n'aurait passé en Provence, rien de Rome à Tunis. Mais sur cette eau, depuis des millénaires, les meurtres et l'amour s'échangent et un ordre spécifiquement méditerranéen s'établit, observe avec justesse Jean Giono. Bleu est un alliage entre le rythme de soi et le rythme de l'autre, entre le permanent et le mouvant, entre l'attente et le bon. Franchir le cercle de la nostalgie et du passé, de l'antique et de l'installé, dans lesquels la Méditerranée s'est alanguie durant de nombreux siècles. Le passéisme est une tentation de néant, la création un appel à l'inaugural qui n'est pas un simple commencement ou un reniement de ses sources. Et c'est un retour amont qui appelle un déploiement de ses bases, un retournement des repères qui donne un autre visage à l'avenir. Bleu est un pont entre toutes les rives de la Méditerranée, le refus déclaré, déterminé, obstiné, de consentir au mur de la peur qui ne cesse de s'édifier tout autour de la mer intérieure.
Eh oui, on tourne les pages.
Le goût de l'ailleurs, la gestation du divers, les Méditerranéens en ont une expérience intime, façonnée par les siècles. Elle fait partie de leur culture au quotidien, de leur style de vie qui se définit volontiers comme un art de vivre. Bleu est l'affirmation de ce style de vie méditerranéen face à un mondialisme inconsistant qui se propose de normaliser nos modes alimentaires et vestimentaires, notre écoute des formes musicales autant que notre regard sur les formes visuelles en film, vidéo ou multimédia. Il est une singularité méditerranéenne qui résiste. L'American Way of Life, qui définit un standard de consommation à l'échelle mondiale, n'est pas notre destin. Ce n'est qu'une subordination consentie, une façon de vivre légitimée par un flot incessant d'images qui crée une mythologie adaptée à notre temps. Le style de vie méditerranéen ne se plie pas à ce nouvel ordre mondial. Il se nourrit d'un autre système de valeurs, d'une autre hiérarchie de priorités. Si le marché et l'échange ont toujours été au cœur des sociétés méditerranéennes, l'argent n'a jamais été la première des valeurs. Le commerce des choses est d'abord un commerce entre les hommes et l'économie reste subordonnée à l'humain. Le temps et la parole également n'ont pas la même valeur qu'ailleurs. Quant au travail, comme on commence à le découvrir dans les sociétés occidentales, il n'est qu'une partie de l'activité humaine. Reste l'œuvre et l'action, la disponibilité et l'attente, l'esthétique du quotidien et l'éthique du visible, inscrites dans la chair du monde et le plaisir des choses. Ce style de vie méditerranéen inspire la création la plus contemporaine dans le design et la mode, dans l'architecture d'intérieur et dans la recherche de nouvelles formes urbaines. La couleur triomphe du gris, le bleu peut prendre le pas sur le noir, une modernité méditerranée est en train d'advenir une pensée méridienne, de prendre forme. Le Sud ne cherche plus nécessairement à imiter les modèles du Nord. Il renoue avec lui-même, redécouvre sa grandeur, enfouie, et retrouve une part d'estime de soi. Ainsi, est-il en train de tracer son propre sillage, d'inventer un autre avenir et de mettre en débat les termes mêmes de son renouveau.
Oui, encore de bien belles formules. J'avais oublié de vous dire que le bleu et le noir, ou le noir et le bleu, c'était le titre d'une des premières expositions inaugurales du MUCEM en 2013, dont Thierry Fabre était commissaire aussi. Donc, après Thierry Fabre, eh bien, un autre Marseillais célèbre qui a élaboré le recueil, mais qui a donné sa contribution personnelle à ce recueil, Jean-Claude Izot. Jean-Claude Izot, vous le connaissez, bien sûr. Il était écrivain, il a été surtout romancier, mais aussi poète, ancien journaliste. Après son très grand succès de la trilogie Total Khéops, il a publié aussi Les Marins perdus, qui est un superbe roman poétique, pourrait-on dire, Loin de tout rivage, Vivre fatigue, Soléa, également en série noire, etc. Jean-Claude Izot, vous savez, il a même baptisé, enfin après sa mort hélas, un collège à Marseille, tout près du port. Alors, que nous écrit-il sur la Méditerranée et en particulier Marseille ? Marseille, la lumière et la mer. Marseille s'offrait juillet en septembre. Le bel été durait. Dans les rues, bruyantes, exubérantes, comme toutes les villes du sud, on avait oublié les incendies violents du mois d'août, à Septem, au Rove, à Allo, et la sourde peur de chacun de voir les feux embraser les pourtours de la ville. L'Olympique de Marseille, ce soir-là, jouait contre Bordeaux, à Bordeaux. Dès 20h, les bars des différents quartiers allaient se remplir de supporters. Ah oui, on aime bien suivre les matchs dans les bars. Une ou des télés, selon les bars, justement. Parfois même, on y va avec femme et enfants. Une part de pizza, une bière et 90 minutes à espérer la victoire du club, toujours. Chaque bar recrée un microcosme du stade et, exception faite du Paris Saint-Germain, on peut même, si on est originaire d'ailleurs ou simplement de passage dans la ville, manifester son soutien à l'équipe adverse. Avec quelques limites à ne pas franchir, bien évidemment. On a son honneur quand même. Enfin, pour l'heure, sur le Vieux-Port, à la terrasse de la Samaritaine, on buvait jusqu'à la dernière minute et avec insouciance, comme toujours, avec cette superbe lumière d'automne qui coulait du ciel dès 5h du soir. On ne comprend rien à cette ville si l'on est indifférent à sa lumière. Elle est palpable, même aux heures les plus brûlantes, quand elle oblige à baisser les yeux. Marseille est ville de lumière et de vent. Ce fameux mistral qui s'engouffre dans le haut de ses ruelles et balaie tout jusqu'à la mer et qui fait claquer les portes. Jusqu'au large de Pomègue et Ratonneau, les îles du Frioul. Jusqu'à Préplanier, le phare aujourd'hui éteint, reconverti en école de plongée, qui indiquait à tous les marins du monde que Marseille était à portée de main et ses femmes aussi, pour oublier la passion des mers et des îles lointaines. Marseille, à dire vrai, on ne peut l'aimer qu'ainsi, en arrivant par la mer, au petit matin, à cette heure où le soleil, surgissant derrière le massif de Marseille Vert, embrase ses collines et redonne du rose à ses vieilles pierres. On voit alors Marseille comme Protis le Phocéen l'a découverte il y a 2600 ans. Et qu'importe si c'est exagéré de dire ça, Marseille exagère, toujours, c'est son fond. Et dans le fond, rien n'a changé depuis ce jour-là. Il suffit simplement d'arriver de Corse en ferry pour renouer avec cette histoire, ou plus simplement encore de revenir d'une nuit de pêche au large de l'Estac. Quand la rade vous ouvre ses bras, alors seulement, on découvre le sens éternel de cette ville, l'accueil. Car Marseille est faite d'ailleurs, d'exil, et elle se donne sans résistance à ceux qui savent l'apprendre, qui savent l'aimer. Ici, on est chez soi, d'où que l'on vienne, et personne jamais ne vous demandera d'où vous arrivez. Exception faite des flics la nuit sur le cours Belzins, où l'on rénove à tour de bras, dans les rues autour de la place de l'Opéra et sur le cours Julien, où s'est déplacée la vie nocturne. Marseille est un mythe. C'est ça seulement qu'il y a à voir, à épouser. Le reste peut y être aussi futile ou vaniteux qu'ailleurs. On pourrait même dire que la ville est à l'image de ces fausses blondes que l'on croise dans les rues. Elles ne donnent à voir que ce qu'elles ne sont pas. Vanité second empire ou de la richesse coloniale du palais du Pharaon qui se rince magnifiquement l'œil sur la baie et sur la ville, ou du palais Longchamp qui la domine, mais dont l'avenue, conduisant à la mer, s'échoue et se perd dans un entrelacs de ruelles oubliées de tous. Futilité des rénovations, réhabilitation du quartier des Grands Carmes ou du quartier du Panier, où l'ocre neuf des façades, à l'italienne, tente de faire oublier à tous les racines antiques de la ville, grecque, tragique donc, coulée sous des tonnes de béton pour créer les centres commerciaux ou les parkings, au nom évacuant toute rêverie maritime et orientale, aventureuse. Charles de Gaulle contre Pythéas. Pythéas, pourtant, qui a bouleversé la géographie en découvrant la route des pôles et qui a eu raison contre Strabon. C'est ici, dans le vieux port, dans la vieille ville, dans le jardin des vestiges, c'est ici, face à quelques pierres entassées, bribes de fortifications gréco-romaines, que se perd la mémoire de la ville. On y a exilé la beauté. Les Grecs, dont les Marseillais se réclament, avaient pris les armes pour elle. Vous savez, la beauté d'Hélène. Et alors, là aussi, on peut prendre le ferry boat, le Marius, qui perpétue la gloire de Pagnol et de Rému. Pour tenter une nouvelle fois, en reliant le quai de la Mairie au quai de Rive-Neuve, de comprendre cette ville. Atypique n'est pas le mot. Décalé, plus exact, comme la gare Saint-Charles, avec ses escaliers monumentaux tournés vers la ville et sa façade magnifique qui regarde vers le port, la mer, l'Orient. Avec le ferryboat, la traversée est brève, de la place de la Mairie à la place aux Huiles. Là, sur le quai, trône la statue de Vincent Scotto qui chanta et fit chanter le petit peuple de Marseille. Et on peut refaire la traversée dans l'autre sens, une nouvelle fois. C'est d'un quai à l'autre, les yeux tournés une fois vers le large, une fois vers la Canebière, que cette ville se révèle, que l'on comprend enfin qu'il faut se laisser porter par elle, par ses rues, par ses collines. Oui, tellement urbanisée, il est vrai que l'on en oublie que Marseille est faite de collines qui descendent vers la mer. Et c'est seulement en marchant, en flânant dans cette ville que l'on prend conscience que l'on n'arrête pas de monter, de descendre, de remonter. Alors que jusqu'à ce moment-là, on avait cru qu'il n'y avait qu'une seule colline, celle où trône Notre-Dame de la Garde, la Bonne Mère, qui le jour brille sous le soleil et la nuit sous les sunlights, comme un cierge éternel. Oui, Marseille se joue des perspectives. Ça grimpe dur pour accéder au vieux quartier, au panier, par les escaliers des Carmes. Arrivé place des Moulins, on se découvre aussi haut que la gare Saint-Charles. Plus haut que l'église des Réformés en haut de la Canebière, et aussi haut que la place Jean Jaurès, dite la Plaine. Et l'on se prend à imaginer que dans les jolies petites maisons qui entourent cette place, eh bien oui, d'ici là, on voit la mer, toujours des deux côtés. D'ailleurs, dans ce quartier que les Allemands ont rêvé de raser dès 1942 parce qu'ils n'arrivaient pas à le contrôler à cause de l'étroitesse des rues, quand on le redescend par les rues de Lorette, du Panier ou du Refuge, chaque maison rivalise en terrasse aménagée à la va-vite sur le toit ou à même les tuiles rouges. Il y a des heures du jour où l'on aime se sentir ainsi, debout à mi-distance entre la lumière et la mer. Manière de se redire, et chaque Marseillais vous l'expliquera, pourquoi l'on est d'ici et pas d'ailleurs, pourquoi l'on vit ici et pas ailleurs. Traîner dans le panier, c'est sentir le vieux cœur de Marseille palpiter, un cœur qui parle les langues du monde, les langues de l'exil. Ce n'est sans doute pas par hasard si Pierre Puget, architecte, peintre aussi, trop méconnu, a édifié le plus beau bâtiment de cette ville, la Charité. La vieille Charité, disent les Marseillais. Par amour de son quartier natal, de son pays natal. Sans doute est-ce pour cela que ce quartier résiste à la rénovation, qu'il se refuse à devenir le Montmartre de Marseille comme on lui en avait assigné le futur. Un quartier qui s'embellit, certes, et tout le monde s'en réjouit. Mais inconsciemment, ceux qui l'habitent veulent prolonger leur propre histoire. Ça a toujours été comme ça, vous expliquera-t-on dans n'importe quel café. Celui des 13 coins, par exemple, même avec Plus belle la vie. Et sur l'autre butte, celle de la plaine. Dans les rues autour du cours Julien, réhabilitées, elles aussi rénovées. Mais on n'a pas réussi à faire ce qu'on avait voulu faire au panier. Alors attention, ce n'est pas Montmartre non plus, c'est Marseille, c'est un autre Marseille encore. Des boutiques de créateurs, des boutiques de couturiers marseillais, y côtoient bars et restaurants, galeries de peinture, antiquaires, boîtes de jazz, de blues, de raga. Et à deux pas, la place Notre-Dame-du-Mont n'a pas du tout changé ses habitudes. Une place populaire qui semble ignorer l'effervescence qui gagne le cours Julien chaque jour, dès midi et surtout le soir. Alors d'ici, on domine la plaine. Non, on domine Marseille. Un coup d'œil, par exemple, à la rue Estelle, qui descend méchamment pour remonter en pente douce de l'autre côté, sur l'autre versant. Et d'ailleurs, le cours Julien, il vaut mieux y parvenir en montant la rue d'Aubagne, après avoir traversé la rue Longue des Capucins, la rue du Marché de l'Orient. On a pu dire que cela ne sentait pas ici les odeurs de Provence. Eh, ça sent les ports orientaux, les odeurs du Marseille éternel, les odeurs des Méditerranées. Il faut respirer cela, au moins une fois, se laisser tourner la tête par les épices et la beauté des femmes qui viennent s'approvisionner dans ce quartier, prendre le temps de discuter avec les vendeurs, tous originaires des autres rives de la Méditerranée. Cette rue, comme la rue d'Aubagne, au bout, à gauche, avant d'arriver à l'ancienne halle de la Croix, c'est le voyage en Méditerranée, d'Istanbul à Tanger, ou de Tanger à Istanbul. C'est là que l'on sent, je dis bien sentir, que les deux rives, les multiples rives, se répondent depuis des siècles. C'est quand on leur a admis que Marseille est aussi orientale que Beyrouth et latine, que prendra fin pour le voyageur égaré l'apparent désordre urbain de cette ville, que montrera en lui, en vous, l'évident bonheur d'être là un jour, une semaine, un mois, toujours peut-être. Le bruit de la ville, eh oui, mais qui conduit à la mer. Dans ce paysage qui ressemble aux îles éoliennes, avec un silence qui tombe sur vous, c'est le grand bleu face à l'archipel des îles du Riou, par exemple, après la matraque de Montredon. Alors, on a bien évidemment oublié d'emporter des chaussures de marche. On s'assoit paisiblement sur un rocher, derrière un pêcheur à la ligne. Le temps est aboli. D'Alger, vous entendrez alors peut-être la voix d'Albert Camus murmurer à votre oreille. Ce sont souvent des amours secrètes, celles que l'on partage avec une ville. Eh oui, les amours secrètes avec Marseille ou avec les autres villes de la Méditerranée, eh bien, on les évoquera tout à l'heure, après notre pause musicale qui va nous renvoyer dans les Méditerranées ou la Méditerranée de Tino Rossi.
Sous le climat qui fait chanter tout le midi, sous le soleil qui fait mûrir les ritournelles, dans tous les coins on se croirait au paradis, près d'une mer toujours plus bleue, toujours plus belle. Et pour qu'elle ait dans sa beauté plus de douceur, mille jardins lui font comme un collier de fleurs. Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées, au rivage sans nuage, au ciel enchanté, Méditerranée, c'est une fée qui t'a donné ton décor et ta beauté, Méditerranée, au clair de lune, entendez-vous dans le lointain, comme un écho qui sur les vagues s'achemine. Entendez-vous le gai refrain des tambourins, accompagné du trémolo des mandolines. C'est la chanson qui vient bercer toutes les nuits les amoureux du monde entier qu'elle a séduit. Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées, aux rivages sans nuages, au ciel enchanté. Méditerranée, c'est une fée qui t'a donné ton décor et ta beauté. Méditerranée, Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées, aux rivages sans nuages, au ciel enchanté. Méditerranée, c'est une fée qui t'a donné ton décor et ta beauté.
Méditerranée, avec ce folklore un peu populaire, un peu exotique à la fois, de Tino Rossi qui nous chante Méditerranée, mais aussi donc Alger ou l'Algérie dont nous parlait tout à l'heure Iso et Camus à la fois. L'Algérie, d'où vient Malika Mokedem, notre prochaine auteure, autrice. Malika Mokedem, elle est née dans l'ouest algérien. Elle est l'aînée d'une grande famille de 10 frères et sœurs. Elle a commencé des études de médecine à Oran et elle les a achevées à Paris. En 1979, elle s'est installée à Montpellier. Elle s'est spécialisée en néphrologie. Mais très vite, après avoir obtenu son diplôme, elle a interrompu ses activités professionnelles pour se consacrer à l'écriture. Elle n'a rouvert un cabinet de médecine qu'en 1989. Et depuis lors, elle partage son temps entre l'exercice libéral de la médecine et l'écriture. Elle a publié chez Grasset plusieurs romans, L'Interdite, Des rêves et des assassins en 1995 et Des hommes qui marchent en 1997. Sa contribution, vous allez l'entendre, est à la fois autobiographique et poétique.
La mer, l'autre désert. La mer, longtemps je ne l'ai connue qu'à travers les livres, mais même alors, sa seule évocation m'était une bouffée d'air dans les suffocations du désert. Maintenant, sa vue me renvoie à lui. Le désert m'enfermait dans un temps, une aridité immuable, dans son éternité minérale. Il n'est de pire sentiment de claustration que celui ressenti face à des immensités de pierre et de sable que le carcan de la tradition, joint aux limites de la misère, transforme en néant infranchissable. Ciel impitoyable, toujours à braiser la fournaise des jours, extase de la lumière, dogme du silence, tout m'y emprisonner, m'y écraser. J'ai grandi avec la terreur de ne pouvoir jamais le traverser et lui échapper. Songer à la mer me délivrait. Me venait alors une respiration légère, un balancement de doute, comme des effusions lointaines, des espérances d'évasion. Dans le secret des lectures et des rêveries, car si peu à peu les nomades disparaissaient de ma contrée, d'autres d'étonnants voyageurs parvenaient jusqu'à moi, les livres me faisant survivre aux états comateux de la canicule des étés. Je n'ai pu quitter le désert que pour me rendre à l'université. D'abord sur la rive sud de la Méditerranée, Que s'est-il alors passé en moi? Comment soudain la nostalgie de ce qui n'avait été qu'un purgatoire? C'est que tout à coup, le bleu de guerre de mon ciel du désert avait fondu en eau. Tout à coup, sa soif étanchée, la brûlure de mes yeux apaisée. C'est qu'enfin, seul et libre face au grand large de la Méditerranée, je prenais lentement conscience que les sables de mon enfance et de mon adolescence étaient aussi un grand large, une invite au voyage dont j'avais été exclue. Pourtant, ma famille avait été nomade, mais piégée par l'immobilité des sédentaires, elle avait abandonné sa marche, s'était échouée dans l'oubli. Du désert à la mer, de l'oralité à l'écrit, de la vie de tribu à la solitude, moi, j'ai suivi les pistes des nomades aux exils assouvis, les livres. Le ressac de la mer me ramenait au désert. Surprise, je le redécouvrais en elle, tel que je ne l'avais jamais perçu. En elle, j'apprenais à l'aimer. Je déchirais les derniers voiles de la tradition et admirais ses horizons. Je jetais au vent des restes d'interdits. Les vagues me lavaient de la vermine des yeux qui me rongeaient le corps et la vue, qui me laissaient aride d'affection, la véhémence pour toute pensée, la rage de m'en sortir nouée aux entrailles, et le sourire des victoires toujours tordu par un rictus de désillusion. Tout occupé à me guérir de mes amputations successives, par le vertige de cette liberté fraîchement acquise, je n'éprouvais alors aucun souci quant aux autres rives de cette mer, aucune inquiétude quant à cette entité nommée Méditerranée. L'intolérance, les menaces de violence m'ont poussé un jour à la traverser. Bon gré, mal gré, je suis devenue une enfant de la rive nord aussi. Ma confrontation avec l'autre sur l'autre rive m'a révélée à moi-même, à la fois semblable et différente. Elle m'a fait découvrir la profondeur de mon altérité, une universalité dont le premier germe avait été déposé en moi dès l'enfance par une langue traversière. Les mots sans frontières de ces livres m'avaient nourri, transformant ma rage de vivre en résistance, en ténacité. Ils avaient ouvert dans mon esprit une infinité d'espaces aux grandes dames du vocable maternel réducteur et d'horizons qui n'étaient qu'enfermement à perpétuité. Alors, j'ai commencé à observer les autres, à me rendre compte des autres désarrois, des amours mutilés ou tombés en amertume quand l'oubli est impossible. Et tous ceux réduits au silence parce qu'ils gardent enfouis en eux des jamais indigestes. Pieds noirs, juifs de là-bas, réfugiés et autres gueules ou âmes de métèques. Combien sommes-nous de mémoires attachées, de frustrations exprimées ou tuées, de regards endoloris ou révoltés, constamment tournés vers l'autre rive. Nous sommes des affections tissées entre sud et nord, des cultures métissées par le nord et le sud, et le ressac qui caresse Alexandrie, Tunis, Alger, Oran ou Tanger nous donne des frissons même au-delà de Marseille et de Montpellier. La Méditerranée ne nous est plus qu'un immense cœur battant entre les deux rives de nos sensibilités. Lorsque l'inquiétude me tenaille, lorsque la nostalgie me travaille, je m'en vais marcher sur quelques plages. Là, malgré le murmure de sa fantasque mais plus clémente jumelle, la mer, malgré les écrans de toutes les distances, malgré les ans qui grandissent l'espace, le désert déferle en moi, à l'instar des quintes de vent de sable, torrides et terrifiants. Et au sein même des foules de baigneurs qu'attire la mer, son silence s'abat sur ma raison, comme une mise en garde contre toute trahison, comme une oraison de feu qui attise ma mémoire. Mer et désert, je m'y perds. Pour me retrouver, j'écris le désert sur les rivages de la mer, sur les fonds et confonds en une même image la blessure lumineuse de ma liberté.
La blessure, c'est ce qu'évoque une autre écrivaine algérienne, Assia Djebbar. Vous l'avez déjà rencontrée, sans doute. Je crois qu'Odile nous avait fait découvrir certains de ses livres dans le passé. Assia Djebbar, c'est une écrivaine bien connue, confirmée, pourrait-on dire, qui avait publié en pleine guerre d'Algérie Les Enfants du Nouveau Monde et qui avait écrit d'autres grandes fresques sur l'histoire algérienne. Elle est traduite dans beaucoup de langues et c'est un des écrivains les plus importants du Maghreb. Un de ses derniers ouvrages, Les Nuits de Strasbourg, est paru chez Actes Sud. On va donc lire sa contribution qui est assez surprenante.
Le retour du père. Le père est mort, à Paris, à l'hôpital, juste avant l'aube et seul. On me prévient, une heure après, à l'autre bout de la terre, à Toronto. Il est un peu plus de minuit à Toronto, lorsque le téléphone sonne dans ma chambre du 39e étage. Je comprends aussitôt, avant que la voix là-bas ne m'annonce. Après, je reste les yeux ouverts, fixant à travers la baie l'étincellement des lumières de la nuit dans le ciel d'Amérique du Nord. Après, je n'ai pu que dire ces matins du premier deuil. Je n'irai pas, ou pas encore. Je veux croire qu'à cause de ce soleil là-bas, enfin chez lui, il s'installe, que de si haut, il contemple la mer, le port rétréci, aux pierres rousses, le phare. Le père, il se repaît, certes, yeux fermés et étendus de tout son long, de ce paysage marin. À l'horizon, sa mère. Il y descendait chaque jour, dans son enfance et sa jeunesse d'abord. L'ombre de son vieux père assis alors près du square, et il sourit à ce fantôme. Il parvenait à la rade, où, une fois l'an, il participait au championnat de crawl, sur la plus longue distance. Aller et retour du port jusqu'au phare au loin, à demi englouti. Lui, le jeune homme, devenu champion de natation. Lui qui, peu après cette première fierté, avait protesté. C'était dans les années 30, avec son meilleur ami. Il avait foulé le sable de la petite plage réservée aux Européens. Deux jeunes Arabes très beaux, en maillot, s'étaient dressés devant la plaque en bois. Entrée interdite aux Arabes. Du pied, en silence, ils l'avaient renversé. Ils avaient ensuite nargué les belles nageuses. Il contemple aujourd'hui son paysage s'étalant en une vue panoramique. C'est remonté chaque soir d'été, les cheveux mouillés, les muscles un peu las, et quand il se penchait à l'entrée de la petite maison pour m'embrasser, moi, son aîné, âgé de 4 ou 5 ans, il me semble, je humais sur lui l'odeur troublante, persistante. « Voici un oursin pour toi, spécialement. » Il m'ouvrait la coque, me fascinait la chair rosâtre et molle, je n'osais la manger ainsi toute crue. « Je veux l'oursin, seulement pour l'odeur, soupirais-je, puis j'exigeais. « Quand donc me mèneras-tu avec toi jusqu'à la plage ?» C'était encore l'époque, pour ma mère, ses amis, et même pour nous, les fillettes, où nous ne pouvions prétendre y descendre. Nous admirions un pan de l'horizon marin, toujours de loin, en montant sur les terrasses de la Maison Blanche. Me poursuit encore aujourd'hui cette odeur de l'oursin à demi-vivant dans les paumes du jeune homme qui était mon père. Je n'ai pu, au cours de ces jours de deuil, accompagner les officiantes de la famille au cimetière. J'irai un jour, bientôt, jusque près de l'oranger et de la tombe. Ce sera en gravissant la pente, en partant du port, non loin de son phare antique. Je traverserai ensuite la place aux Bellombras vénérables et aux statues romaines regardant dans le vide. Puis je suivrai les ruelles familières, celles que j'empruntais enfant pour aller de maison en maison, un jeu de vacances d'autrefois. Parvenu au cirque s'écroulant dans les vieilles demeures arabes, je finirai par trouver mon chemin. Bien sûr, j'arriverai toujours au matin et sous ce même resplendissant soleil, j'arriverai jusqu'à lui, assuré que de là, il contemple sans fin l'horizon bleu d'acier luisant. La mer docile, vue de là-haut, le père témoin.
La mer vue de là-haut, donc, eh bien, cette Méditerranée, retraversons-la, revenons vers les rivages italiens avec Eri De Luca. Odile nous a présenté aussi l'année dernière, ou il y a plusieurs années, je ne me souviens plus, un des romans de Eri De Luca, Impossible, qui se situe dans les Dolomites. Mais Eri De Luca, il est né à Naples. Il est né à Naples et il a donc vécu son enfance dans la baie et sur la côte napolitaine. Il a fait des études, il a même fréquenté le lycée français de Rome, mais il est connu pour avoir milité activement au mouvement Lotta Continua jusqu'en 1976-78. Il a fait beaucoup de métiers pour vivre, il a été ouvrier à la Fiat, il a été maçon, et finalement il a continué à exercer des métiers manuels pour préserver sa liberté. Entre deux chantiers, cet écrivain atypique, en même temps que symptomatique de la vie intellectuelle italienne récente, à mi-chemin entre la fiction et l'essai, il a consacré à l'écriture toute sa vie finalement, puisque l'écriture c'était sa véritable activité. Il a publié quasi sans arrêt donc une très longue liste de romans, dont Une fois un jour, Acide, Arc-en-ciel, etc. Ici, nous allons lire donc sa contribution pour le recueil qui évoque précisément des vacances sur la côte napolitaine. Je venais de quelques mètres d'espace semé d'obstacles et dans la même journée, après avoir franchi un seul bras de mer, j'étais sur les plages de l'île, à Ischia. Comme il était troublé, celui qui, venant d'un giron de ruelle, avait soudain toute la mer pour lui, tout l'horizon face à lui. Les gestes de la nage évoquent assez bien ceux du vol. La mer donne aux bras ce que l'air offre aux ailes. Le nageur flotte au-dessus des abysses. Dès mon arrivée à Ischia en début d'été, je me retrouvais nue, je me détachais de la terre qui m'avait retenue 9 mois, 10 mois dans sa gangue, et je nageais en battant l'eau de mes pieds empennés et de mes bras ailés, me posant sur les rochers qui étaient des cimes d'arbres dans la mer. L'île était un champ immense pour l'enfant que j'étais, puis pour le jeune garçon, étouffé par les réclusions domestiques urbaines. Je les avais admises en ville et j'en ajoutais de nouvelles bien à moi. Puis je me coupais des camarades de mon âge et de leurs jeux. J'inventais des interdictions, je jouais avec les barrières, j'accumulais les limites. Mais sur Ischia, j'étais le plus fort. Je parvenais à résister aux privations et aux interdictions. L'île mettait tout en l'air, ouvrait grandes toutes les clôtures. Très vite, avec les premières journées, venait la mue annuelle, propre aux serpents. Je pelais, changeant de peau en quelques nuits. Une autre affleurait, qui voulait rester nue, déchaussée, couverte de sel, du sel de la mer, mêlée à celui de la sueur séchée. Et toujours un rien de poisson sur les doigts. Dans les ruelles, les maisons de pêcheurs où nous logions coulaient devant, une rigole d'eau salée avec les restes des poissons. La nuit, les hommes de la pêche prenaient le chemin de leurs emplacements au large. Chacun avait son fond à lui, réglé sur 2 ou 3 points d'horizon. Le matin, écailles, branchies, tripes de poissons gisaient sur la plage à côté d'hommes endormis à l'ombre des barques tirées au sec. Si le mal a une odeur pour moi, c'est bien celle-ci, celle des poissons, et je m'en imprégnais en touchant algues, flotteurs et nasses. Pas de savon alors, pas de mousse dans les cheveux, mais la mer et le sable brûlant qui se chargeaient de dégraisser mon corps, qui ressortait froid, trempé de la nage. Mais s'il jaunissait, mes cheveux se décoloraient en blond, ma peau durcissait comme une gousse de caroube. La liberté consistait à s'épaissir, à se couvrir d'une écorce qui grouillait de poils jaunes. L'île apprenait à être une bête pour soi. Elle donnait au corps la force immense. Aujourd'hui encore, je ne la connais pas entièrement. Et cette île, la géographie de mes livres de classe, mente. Elle mente puisque, en fait, elle était grande comme un ongle sur la carte. Alors que chez moi, elle contenait des immensités, des explorations, des océans. Adulte, je n'ai jamais désiré les tropiques. Mon île m'a suffi. J'ai fouillé la côte à la nage, à la rame, je suis montée sur tous les rochers. J'ai fait l'amour dans l'eau au large. J'avais des jambes de nageur qui la soutenaient, elle, et nous flottions à force de pousser. Une fois, j'ai fait jaillir tout seul ma semence sous le coup d'un pur bonheur de solitude, en bas d'un rocher sur lequel j'étais montée. Et bien des fois, fatiguée de nager, raidie de froid, j'ai grimpé sur les sommets là où sèchent les arêtes ou les lézards, où quelquefois on trouve les fientes des mouettes, là où la terre est brûlante. Je m'étendais de tout mon long sur les aspérités du sol et j'étais pris par la chaleur du soleil au-dessus de moi et celle des terres en feu. Ma respiration se faisait profonde. C'était merveilleux. Dans un espace restreint, je sentais l'immense et non plus les limites du corps. J'étais une chose de la nature exposée là. Le nom de l'île, c'était la liberté. Si je ne lui ressemble pas, alors je n'ai rien appris. Si je ne suis pas une couche jaune de sa croûte craquelée, fendue par les vignes qui la forment, si des chardons ne poussent pas dans mes yeux, si je ne rêve pas la nuit, comme rêve un rocher bercé par les mouvements bratisismiques, alors je ne pourrai jamais rien apprendre. Voilà les souvenirs d'enfance de Eri De Luca, les îles, oui. Et puis à nouveau la mer, et reprenons la mer plein est, jusqu'à la Turquie, jusqu'à Orhan Pamuk, ce romancier turc tout à fait contemporain de Eri De Luca. Il est né en 1952, c'est peut-être l'écrivain turc contemporain le plus connu dans son pays et sur le plan international. Il a obtenu de nombreux prix littéraires, et lui aussi, il nous livre ses souvenirs de la mer, la Méditerranée.
La mer blanche et d'azur. C'était au début des années 60. J'avais 9 ans et je me rendais en voiture avec mon père d'Ankara à Mersin, petite ville de la côte méditerranéenne. Je ne me tenais plus. On m'avait dit que je verrais la Méditerranée pour la première fois et que je ne l'oublierais jamais. Enfin, dans un décor de collines jaunes, je la vis. Et je n'ai jamais oublié. Pas la mer, il est vrai, mais l'instant de la découverte. Elle était d'un bleu différent. Elle était d'azur, pour utiliser un mot chéri de la littérature occidentale, un mot dont l'origine est arabe. Je m'étais attendue à une mer semblable à un mirage ou à un désert, parce que le mot turc pour la Méditerranée, Akdeniz, signifie la mer blanche, comme en arabe d'ailleurs. Il y avait de la brume ou du brouillard, comme cela arrive souvent, mais la mer que je vis n'avait rien de blanc. Ce fut ma première rencontre avec la difficulté qu'a la langue turque pour décrire cet océan insondable. Plusieurs années après, en lisant l'ouvrage classique de Fernand Braudel sur la Méditerranée, je compris que ma première rencontre avec la mer avait été une illusion. La carte de Braudel faisait de la mer de Marmara, du Bosphore et même de la mer Noire des extensions naturelles de la Méditerranée. Il montrait que les oliviers et les figuiers poussaient également sur les rives de Marmara, au voisinage du Bosphore et autour de la mer Noire. Le dénominateur commun de la vie méditerranéenne, c'était le climat et l'espace. À l'époque où l'Empire ottoman était au zénith et régnait sur tout le Moyen-Orient, la Méditerranée fut élevée au statut de Mare Nostrum, ou, comme le disaient mes livres d'école, de mer intérieure de l'Empire, une entité topographique constituée de détroits et de routes maritimes. J'aimais cette approche géométrique et j'y succombais. Le danger guettait pourtant autour de cette mer intérieure. L'horizon se couvrait de bateaux pirates, de galères vénitiennes et de vaisseaux maltais. Le temps même était capricieux et quand après une nuit d'orage, l'aurore se faisait douce et bienveillante, on pouvait fort bien se trouver confronté aux canons et aux pavillons de l'autre, c'est-à-dire l'ennemi. Nourri des romans populaires turcs de mes années d'adolescence, je voyais dans la Méditerranée le terrain de chasse de Barberousse, de Turgut Reis et des divers amiraux ottomans, pour la plupart des pirates chrétiens enrôlés de force au service du sultan.
Alors, finalement, ce qu'il nous dit, Orhan Pamuk, c'est
Il faut comprendre que la Méditerranée est une mer et rien de plus. Mais la mer et sa capacité d'inspiration infinie, voilà tout ce qui compte.
La mer et sa capacité d'inspiration infinie, voilà tout ce qui compte. Eh bien, c'est un petit peu aussi ce que pourrait nous dire un autre écrivain, toujours à l'est de la Méditerranée. Restons dans l'est de la Méditerranée, donc avec un texte assez poétique de Mahmoud Darwish. Mahmoud Darwish, vous le connaissez bien aussi. Nous l'avons rencontré également dans des lectures précédentes. Et en fait, aujourd'hui, avec cette contribution au recueil, on va retrouver cet écrivain donc né en 1942 en Galilée, qui, réfugié dans son propre pays, assigné à résidence pendant plusieurs années à Haïfa, a fini par quitter Israël pour le Caire, puis pour Beyrouth, puis pour Paris, avant de retourner en Palestine, enfin dans la Palestine occupée, en tant que membre du comité exécutif de l'OLP. Il est mort aux États-Unis puisqu'il était parti pour les États-Unis pour un traitement médical. Il a subi une opération et il est décédé donc aux États-Unis en 2008. Son texte, c'est donc « Pour mémoire, pour oublier ». La mer s'approche de nous. L'automne s'approche de la mer. Le mois de Havre nous livre à l'automne. Et où va nous emmener la mer ? Cette histoire, je ne veux ni l'écrire, ni l'oublier, cette gêne de l'écriture et sa frustration perpétuelle. C'est l'histoire de l'homme qui est resté, 27 années, assis sur un rocher du rivage de Tyr. Le moment est-il venu de me libérer de l'obsession de cette histoire, ou bien va-t-elle m'emmener avec elle à la mer ? Et qui d'ailleurs songe à écrire aujourd'hui. Mais je vais encore essayer de raconter cette histoire, afin de trouver ma route sur la mer. Sais-tu qui est Kamal ? Cet homme dont je demande l'histoire, cet homme qui restait assis sur un rocher du rivage de Tyr dans l'attente d'une colombe qui apparaîtrait au sud-ouest lorsque la vue serait dégagée et la mer calme. C'était son secret. Ses amis du camp de réfugiés traversaient la frontière pour revenir en héros ou pour mourir. Lui, il ne prêtait nulle attention à leur destin ou à leurs exploits. Il restait sur son rocher, dans l'attente du moment opportun où il prendrait la mer pour rejoindre la colombe. Rien ne pouvait l'arracher à son poste, ni les raids aériens, ni les funérailles des martyrs. Seul le soir tombant ou la brume poussait Kamal à rentrer chez lui, dans sa famille. La colombe, c'est Haïfa. Parce que sur le mont Carmel, qui est issu de la montée de la mer vers le ciel et de la descente du ciel vers la mer, se dessine quelque chose de merveilleux, un collier de pierres et d'arbres qui fait le profil d'un oiseau. Je veux parler de Haïfa, au bec tendu pour qui la regarde de la mer, témoin du pouvoir qu'a la vague impétueuse de se pétrifier pour l'éternité. Eh oui, cette cité qui vole comme une colombe mais qui baigne dans son sang. La mer ne connaît pas celui qui regarde la mer. Elle ne connaît pas celui qui vient s'asseoir sur le rivage pour contempler un paysage. La mer ne connaît que celui qui plonge et se risque, celui qui oublie la mer dans la mer et se perd dans l'inconnu comme on se perd dans la femme aimée. Dans les mots, le bleu et l'eau sont confondus. On ne voit et on ne sent leur différence que dans les profondeurs de la mer. La mer est la mer. Mais qu'est-il arrivé à Kamal ? A-t-il toujours attendu la colombe ? Il est retourné à la mer. Il est retourné à la mer pour retrouver la colombe. C'est son poème. À l'automne, la mer n'est plus la mer. C'est une sorte de tapis liquide brodé de fils de lumière. À l'automne se taisent les cloches de la mer et résonnent les cloches du sang. À l'automne se fane la colombe, à l'automne le cœur se change en pomme mûre, la mémoire se brise et coule le vin de l'oubli. À l'automne le muet parle. Si seulement je pouvais lancer mes pas sur un chemin d'écume, si seulement je pouvais lancer mes pas et dormir sur un lit d'écume. Haïfa. Pourquoi ne puis-je voler? Ne puis-je dormir? Haïfa, pourquoi ne dis-tu pas la vérité? Es-tu oiseau? Es-tu pays? Si seulement je pouvais lancer mes pas et me reposer pour l'éternité. Voilà, c'est l'histoire de Kamal. C'est avec l'histoire de Kamal que nous allons terminer Méditerranée, ce recueil qui nous a emmenés un petit peu loin de Marseille. Et Marseille, nous y reviendrons la semaine prochaine avec vous au studio de Radio Galère pour d'autres aventures. À bientôt !